Florida'da değil. Ningún derecho. Ningún derecho.
Bon après-midi à tous. Donc, pour l'enseignement de cet après-midi, cela va être donc la conclusion, la dernière session d'enseignement sur les quatre sceaux du Dharma que je donne ici dans ce temple de Karma Migyurling. Donc, comme je le disais ce matin, par le raisonnement, on peut établir et démontrer que le soi, le supposé soi de l'individu est parfaitement dépourvu d'une véritable existence, d'une réalité propre.
Donc,
première raison, premier raisonnement, on peut établir donc l'absence de ce soi, son inexistence, en raisonnant sur le postulat de singularité ou de multiplicité, suivant, donc c'est une alternative stricte, exclusive, suivant laquelle ce soi pourrait être établi, et donc c'est comme cela donc on démontre par le raisonnement l'absence. Et la qualité de l'esprit qui va être utilisé pour développer tous ces raisonnements, pour parvenir à comprendre, à réaliser tout cela. Cette qualité de l'esprit, c'est ce que l'on appelle Shirab, la suprême connaissance. C'est la suprême connaissance, suprême parce qu'elle nous permet de comprendre, de réaliser la nature absolue des choses. Et ce n'est que grâce à cette suprême connaissance que l'on parvient à réaliser l'absence d'un soi. Sinon, sans la suprême connaissance, on ne peut pas comprendre l'absence d'un soi, on ne peut pas comprendre l'absence d'une réalité propre. une véritable existence des phénomènes. Il n'y a rien qui nous permette cela, sinon la suprême connaissance.
Chedangi shirap de la cheshava inaro ni yuri tani juji shirap da nilu to juji shirap ni yuri tani juji shirap se te pena pena kasurita kunilu ram membache pena bomba doji shashava ina koto derware to sham showare to
Et quand on parle de suprême connaissance, on entend deux domaines d'application de la suprême connaissance. Deux aspects. Il y a la suprême connaissance qui s'applique à comprendre ce qu'il en est de toute chose dans le domaine conventionnel, et la suprême connaissance qui s'applique à la réalisation de la nature absolue. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'intelligence ou la suprême connaissance qui permet de connaître le domaine conventionnel? Prenons l'exemple d'un vase. La suprême connaissance appliquée à ce vase va, sur le plan conventionnel, va nous permettre de comprendre absolument tout de ce qu'est ce vase, de sa structure, de sa matière, de sa fonction. Il est fait de telle matière. La fonction d'un vase est de contenir un liquide, de l'eau, tout autre liquide, etc. Donc, grâce à la suprême connaissance conventionnelle, on va tout connaître des propriétés sur le plan relatif de toute chose, de tout objet. Et bon, ça c'est donc la suprême connaissance ou intelligence conventionnelle, mais la suprême connaissance qui s'applique sur le plan absolu, elle va aller plus loin, plus profond que l'approche conventionnelle pour donc connaître, réaliser ce qu'il en est d'un point de vue absolu de la nature des choses. Donc quand on parle de vacuité, absence d'un soi, ce sont des notions qui échappent complètement à l'approche conventionnelle de la connaissance ou de l'intelligence. Cela ne peut être réalisé que par la suprême connaissance dans sa dimension de la nature absolue, donc sur le plan absolu. Et en fait, la suprême connaissance qui appréhende la nature absolue des choses, elle va donc dépasser le côté de la connaissance superficielle, conventionnelle des choses, pour aller de plus en plus profond. Donc, non pas s'arrêter à ce que sont les propriétés superficielles apparentes d'un objet, d'une apparence, mais donc aller toujours plus profond. pour vraiment comprendre quel est le principe même d'apparition de cet objet, de cette apparence, quel en est son principe. Donc cela va nous amener plus loin à découvrir quelles sont les causes et conditions qui font que tel objet ou tel phénomène apparaît. Et là encore, on va pousser encore plus loin grâce à la suprême connaissance pour aller jusqu'aux limites du conventionnel et dépasser le conventionnel, comprendre ce qui est la nature même absolue, même des causes et des conditions les plus subtiles que l'on vient d'évoquer, par-delà même. Donc quant au principe absolu d'apparition et d'existence de toute chose. Là, on est dans la suprême connaissance sur le plan absolu.
Tāngbō pōngbō tāng, ngā wō nyambē kī tā chīk tā tu tsimbā chīk lā tēne tā sīng chīk nā wā shāyāng hu yō rā, tāng zī lā tēne tā chīk yō bā nā wā shāyāng hu rī. Tē tā wē tā tē nā wā shāsā tē kārā shāgur sī na pōngbō tē kārā nā shāgu yō rī. Tē ndu tā tā pōngbō nī chīk rī tā kī tā tē rā shā, tā tī rā chīk bā nā yā tā rī sī.
Donc, soi, ou moi. On va exercer sur ce concept qui nous est familier, plus que familier, cette suprême connaissance. Quand on dit moi, on dit moi, on entend d'abord par défaut cet agrégat en tant que moi ou mon corps, mon agrégat. Donc, on l'identifie spontanément à cet agrégat. Donc, la suprême connaissance que l'on va appliquer à ce moment-là va consister à examiner. Donc, il y a un soi, on part de ce postulat. Hein. Il y a un soi, il y a un moi. Alors, est-il partie intégrante de cet agrégat ou est-il distinct, soit l'un soit l'autre. On va examiner ces deux hypothèses.
Tien de tambour, ta da pombo ni vod ni chigi wan tambe ina roa. Ani pombo de maginga ne sa du tropa chere roa. Tien de yan ta de yan sa du tropa chere cha du yus.
Alors prenons l'hypothèse que il est un avec cet agrégat. Donc ça veut dire que quel est cet agrégat ? Cet agrégat, c'est un produit nouveau qui a émergé de la matrice de notre mère et qui est ainsi apparu, qui s'est formé dans la matrice de notre mère comme un nouvel agrégat. Ce qui signifie que alors le moi s'est formé simultanément dans la matrice de notre mère, simultanément avec notre corps. Voilà, donc s'il est un avec le moi, il est apparu, puisque c'est la même chose, une et seule et une seule et même chose, il est donc apparu avec la formation de ce corps, ou donc la formation de ce moi, puisque c'est la même chose. Alors, si on part de ce postulat, le corps est constitué de nombreuses parties, ses membres, de différentes parties, donc le moi aussi. Alors, est constitué de différents membres, de différentes parties.
Dans le rani, dans le signe de duma le kien dengi marwa, chingye do kien dengi rwa, pongbo le yinla mangbo yendu, dia je zane pongbo dal tani tsungu yo marwa.
Or, le soi, dans ce qui le définit, si on parle d'un soi, on parle de quelque chose qui est une singularité. Un soi ne saurait admettre des parties. C'est forcément quelque chose de singulier par définition. Donc là, on est en totale contradiction. Un moi qui aurait plusieurs parties, des membres, etc., n'est donc pas un soi.
Kase pombo danta, yena pombo danta ni chi on de tambe yena roa.
Ça, c'est dans l'hypothèse où il serait un seul et même avec ce corps.
Tende na, pena kala sa de gozo, kala sa ve yena roa, kala sa ve yena, kala mi ge tongu gu yere. Sama chikbo roa, yena chi yena, pombo danta ni shodan chikbo yena, ni kala sa de ne gozo, ani mi ge tongu gu yore, mi ge tongu de gozo, rwa nyang gu yore, ni tri de sama.
Alors également, le moi était un seul et unique avec ce corps, ça veut dire que lorsqu'on mange un repas, alors ça voudrait dire que l'on fait simultanément l'expérience de voir le repas, de le goûter, d'en éprouver la texture, de le sentir. Non. Clairement, ça ne se passe pas comme ça. Tout ces différents aspects de perception sont bien distincts, ne sont pas simultanés en un seul bloc. Donc là aussi, on a une contradiction. S'il est un agrégat, peut-être donc qu'il est quelque part une forme d'agrégat à l'intérieur de notre agrégat. Donc s'il est un agrégat, ça veut dire qu'il est composé. Composé, comme tout agrégat, composé d'une multitude de particules. Alors là, on est devant l'affirmation qu'une singularité... est composé de multiples particules. Non plus, ça ne tient pas.
Je sais, ta pombo koran daïn jena roa, daïn jena, ane kansi o ta pombo da jeba dan. Ne, susu pina tambo lakwa te, ne, ta redu remendu jeba jena. Ne, dinan shenge kamba jala ya jeba jena, kuwa jeba jena, dinan subu chashe la jeba jena.
Suivant cette hypothèse que le soi et cet agrégat ne font qu'un, c'est-à-dire cet agrégat, ce corps qui est le nôtre, donc ça signifie qu'on va forcément pouvoir le localiser quelque part. Donc, examinons alors ce qu'il en est, disséquons complètement, observons ce corps de la tête aux pieds, dans chacune de ses moindres parties, ce que l'on dit être un soi existant va forcément se trouver quelque part, être identifiable quelque part. Or, au bout de cet examen, on ne le trouve nulle part. Donc, alors, s'il n'est dans nulle partie sous partie de l'ensemble de ce corps, ça va être difficile également d'affirmer qu'il se trouve au niveau du corps dans son entier.
Donc
Donc il y en a ainsi qui disent effectivement, le soi ne réside pas dans telle ou telle partie, sous-partie du corps, mais alors ils affirment que le soi se trouve dans le corps dans son entier. Alors, dans le cas de cette hypothèse,
ta jezan ten de rere gingwe ne ta singe je tobu yobe ina ane tega rang ma to shen la ane ta singe je pungpo chazan zonwa chi la ta lago chuna ane pungpo mazuna da mangin gogu yores.
Donc comment le soi qui ne se trouve dans aucune partie du corps pourrait-il se trouver dans le corps tout entier qui est lui-même composé de ses parties? Là non plus ça ne tient pas le raisonnement. Et donc, ainsi, on peut voir que pour ceux qui pensent ainsi, ce qui est l'identification du moi au niveau de l'agrégat, au niveau du corps, n'est pas valide. Alors, bien sûr, le corps, c'est quelque chose qui nous apparaît comme une entité singulière, hein? Comme cela. Quand on dit mon corps, c'est un corps, c'est une chose. Mais quand on observe d'un peu plus près, on voit bien que ce corps supposé être un, il est composé de multiples parties.
Bien,
Et on peut ainsi examiner chacune des moindres parties de notre corps. Prenons la partie la plus fine que l'on puisse trouver sur le corps, c'est-à-dire un cheveu ou un poil. Hein? Un cheveu, c'est vraiment ce qu'il y a de plus fin. Donc on pourrait dire un cheveu éventuellement est un cheveu. Mais non, là aussi, un cheveu, il se décompose en de multiples parties. Et donc ainsi, on peut aller dans le toujours plus petit, toujours plus subtil, quant aux parties qui sont celles d'un cheveu et leurs sous-parties de ces parties, etc. Et donc ceci, donc, à l'infini. Dans chacune des sous-parties se trouvent à leur tour de nombreuses sous-parties et ainsi de suite. Si on ne réfléchit pas, sans raisonnement, effectivement, on ne voit qu'un cheveu. Et pourquoi voit-on un seul cheveu? Donc, est-ce que c'est dû à l'objet lui-même ou au sujet qu'il perçoit? Bon, ça n'est pas dû à l'objet lui-même, hein? Mais c'est donc bien le sujet qui perçoit, qui le perçoit comme un.
Et
Et donc, ça, la preuve de l'unité de ce cheveu n'est pas non plus dans ma parole hein, qui dit ça, c'est un cheveu. Ça ne démontre aucunement l'unité ou la singularité de ce cheveu. Donc on voit bien là une dissociation claire entre ce qu'est la nature objective de l'objet perçu et puis notre esprit, hein, le connaisseur hein, et le connu, entre le connaisseur et le connu, il y a un grand écart complet. Puisque le connaisseur, l'esprit et la parole qui exprime ce que l'on connaît voient comme un ce qui objectivement est multiple.
Ani ko ta chazan ji ta kanza gombo kora ani ta son topse de kagore.
Donc on va pouvoir dans cette partie particulière du corps hein, comme dans toute autre partie c'est-à-dire donc dans cette partie dans le un fin cheveu l'examiner pour y établir l'existence du soi. Donc, qui ne se trouve donc au fur et à mesure de manière fractale dans aucune de ces sous-parties, pas plus donc que dans le cheveu en tant que supposée singularité. Donc, si le soi ne se trouve pas dans un cheveu ou dans des sous-parties du cheveu, comment pourrait-il se trouver a fortiori dans l'ensemble des cheveux hein, parce qu'on pourrait dire aussi donc il est dans l'ensemble mais s'il n'est dans aucun comment peut-il être dans le tout non plus
gase da de sugu won ta ba ina ro ne sugu le chejong yeb na jin da la yan chejong du tu ge
alors mettons l'idée que le soi existe en tant que une forme. Bon, si c'est une forme, hein, donc par exemple comme le corps, si c'est une forme, il a forcément une taille.
Le
soit s'il avait une taille alors si, considérons une fourmi mais si le soi d'une fourmi avait une taille alors l'éléphant aussi est doué d'un soi donc le soi de la fourmi serait aussi grand que celui de l'éléphant. Donc du point de vue de la taille non plus là, ça ne fonctionne pas. Ou alors il faudrait qu'il ait des petits soies et des grands soies. Voilà donc l'ego de l'éléphant et l'ego de la fourmi donc serait démesuré l'un par rapport à l'autre hein. Jamais la fourmi n'aura le dessus sur l'éléphant. Donc voilà c'est pour ça qu'il est vraiment difficile de voir un soi au niveau du corps.
Donc yoba ngaran zogi dogi yorwa ta pombole membe ge ta singe ji yoba ina ta den dogi ge da dela ane ta jik cheba che tnam lo gi cheba che ne ane ko khana do pombole ta dele do gi pombole chila ne sha asme
voilà donc ben on est toujours avec notre moi hein, ce soir donc ce moi on l'a cherché au niveau du corps, on ne le trouve nulle part au niveau du corps, de cet agrégat. Donc là, il n'y a que deux alternatives. Hein. C'est soit il est dans le corps, ou le corps, soit il est à l'extérieur du corps.
Pombo nan deki yobaina ani pombo rere ki ngune ta ma jup tu ani pombo na chi yin bala ani ta di ni tu yo maris
et donc puisqu'on ne l'a trouvé nulle part dans le corps cela signifie donc qu'il se trouve en dehors du corps mais là en dehors du corps en dehors de cet agrégat non plus. On ne trouve aucun soi.
Tendu, on est pombo le chenji, tsabaina, tela ya chen de chubike, on est souk dans kado ya nigiyomaris.
En dehors du corps, on ne trouve strictement rien d'identifiable qui est une forme, une couleur, un aspect quelconque qui serait en dehors du corps, notre moi.
Ta dindu chirul pombo dan chik dan yin mani, ta dindu mini di, ta ta singe chik tu, ta singe di, ani ta chik, ta temba dhubu chik tu, ta diyan, ta sem gina du sin di san ba, sem shiba gina du sin, shiba diyan, chame res, kijik chame res.
Naso. Donc, s'il n'est ni dans l'agrégat, le corps, ni en dehors du corps, alors il reste encore une possibilité, c'est que ce soi se trouve dans l'esprit, hein, c'est-à-dire dans notre conscience connaissante. Notre conscience connaissante...
Shiva Kichik Chame.
Kichik Chame. Donc, dans notre conscience, en tant qu'instant de conscience indivisible.
Shiva Tigaran Dayin Seguchuna. Ani Dambu Dadi Midao Chador. Shiva Ti Midao Biranjeres.
Et donc là, on est en train d'établir, de démontrer que ce soi au niveau de l'esprit serait donc régi par l'impermanence, puisque notre conscience connaissante est totalement impermanente dans cette continuité ininterrompue d'instant de conscience.
Dadien, maam badan, dada badan, ni debala, ni sum da sum chao tu.
Donc il y aura au minimum trois soi. Hein. On aura notre moi de l'instant présent, notre moi de l'instant passé, notre moi de l'instant futur.
Ani dende sumon de jabaina, dadi tago chao yo.
Et donc, s'il en est ainsi, alors là on contredit une propriété essentielle du soi. Hein, puisque un soi, par définition, est permanent. Il ne peut pas être impermanent, hein, sinon ça n'est pas le soi. Donc, il serait... ce qui doit être forcément permanent serait impermanent, donc pas non plus, ça n'est pas possible.
Si
là on est toujours en train de parler sur le plan conventionnel, hein, Hein, on est dans le langage conventionnel et la compréhension qui va avec. Hein. Donc, on dit qu'on essaye d'identifier le soi dans l'instant de conscience, qui est donc, comme on l'a expliqué, un processus dans le triple terme de apparition, durée, disparition. Apparition, durée, disparition, comme cela, successivement. Donc ça veut dire que le soi aussi, hein, il va fonctionner de cette façon. Il va apparaître, durer, disparaître, et puis ça recommence comme cela à chaque instant de conscience. Et donc, alors on parle de disparition, de destruction du soi, qui par essence, par définition, est indestructible, il est permanent, donc, il ne saurait souffrir aucune destruction. Donc là, ça ne marche pas non plus. Et puis donc, ça voudrait dire également, mais bon, donc là, ça n'est pas du tout, quand on y pense, ça n'est pas non plus logique, que le soi serait parfaitement le même et identique d'instant en instant que le soi qui a disparu l'instant d'avant est le même l'instant présent et qui va disparaître être le même l'instant suivant. Mm. Donc, ça n'est plus un soi.
Hein.
S'il y a un soi effectif, véritable que l'on trouve, il doit forcément être permanent, il ne peut pas être régi par l'impermanence.
Donc,
puisque l'existence d'un objet, elle ne peut être que soit impermanente, soit permanente. Hein. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc, puisqu'il n'appartient aucunement à... Maintenant, on a épuisé tout le sujet du côté de sa localisation dans le corps, l'esprit ou ailleurs. Donc, vu qu'il ne peut pas être impermanent. Donc, c'est quelque chose de permanent. Hein. On en revient là. Le soi est quelque chose de permanent. Donc, si c'est quelque chose de permanent, on doit forcément pouvoir l'identifier, le désigner quelque part.
On
devrait pouvoir l'identifier quelque part. En tant qu'agrégat, on a vu que c'est impossible, hein, parce que si il est une singularité à qui est un agrégat, comme un agrégat n'est pas une singularité, mais composé de multiples particules, donc il ne peut pas être un agrégat. Et donc, ensuite, en tant qu'entité permanente, au niveau de l'esprit, cela veut dire donc que la conscience connaissante, l'esprit, est également permanente.
Ta Shiva Kuran la ni dhyusum ki namsha yungu yodhi ko tabi ki ranshin chikla yungtubu mali ko juru yang ranshin chik yungu.
Or la conscience connaissante est totalement changeante dans les trois temps, au fil du temps. Donc il ne peut pas être le principe d'une entité permanente. Donc également, du point de vue de quelque chose qui serait permanent, on ne le trouve non plus nulle part.
Alors
donc maintenant, examinons les possibilités de ce soi comme étant quelque chose d'impermanent, comme une forme. Ça voudrait dire que ce soi accomplit des actions, comme par exemple la personne qui coupe un arbre. Donc le soi pourrait accomplir des actions en tant qu'entité, hein, comme une personne qui coupe un arbre, ça pourrait être donc une entité qui peut accomplir des actions. Alors on pose la question dans comment l'arbre est coupé. Est-ce que l'arbre il est coupé par la main qui le coupe ou par l'esprit qui la coupe, qui le coupe? Qui est le coupeur de l'arbre? L'esprit ou la main? On parle là donc d'un acte, hein? Ou bien l'acte lui-même. Est-ce que c'est l'acte de couper l'arbre qui coupe l'arbre? Puisqu'on dit bien c'est moi qui coupe un arbre. Et donc dans cet acte qui est celui de couper un arbre, dans cet acte, en fait, il y a de très nombreux éléments qui participent cet abattage de l'arbre. Parce que donc, si moi-même je coupe un arbre, donc je vais dire, j'ai coupé un arbre. Ça signifie simplement, c'est moi qui a coupé l'arbre. Mais du point de vue de l'arbre, ça n'est pas du tout comme ça. Il n'y a pas comme cela, juste un moi qui l'a coupé. Objectivement, ça n'est pas ça. Déjà, l'arbre, il va voir qu'il y a une hache quelque part. Il va voir donc qu'il y a une main qui tient la hache. Il va voir qu'il y a une action qui met en mouvement.
Alors,
peut-être que alors, ce sont ces trois éléments, la hache, la main qui les tient et l'action qui sont le soi, qui sont le moi. Et donc là, dans l'hypothèse où cette personne qui coupe l'arbre s'appelle Tashi, est-ce que c'est moi qui ai coupé l'arbre ou Tashi qui a coupé l'arbre ou est-ce que c'est la hache qui a coupé l'arbre? Donc, on voit bien que ce n'est pas Tashi qui a coupé l'arbre. C'est pas vrai d'affirmer ça simplement. C'est pas Tashi. Alors, on va dire, c'est parce que Tashi a fait le mouvement ou l'acte nécessaire pour couper l'arbre. Donc, alors là, ça veut dire que ce n'est plus Tashi, c'est le mouvement que Tashi a fait qui a coupé l'arbre. Parce que quand on dit Tashi, donc voilà, c'est ce qui habille le moi, hein, dans cet exemple. Hein. Et donc, alors, Tashi, est-ce qu'il est tout cet ensemble de choses ou quelque chose de distinct, hein, ce soi, est-ce qu'il est quelque chose de distinct, qui est complètement indépendant du mouvement, de la hache, etc. Alors qu'on a bien dit que c'est lui qui a coupé l'arbre. Donc là, en l'occurrence, on voit que ce n'est pas Tashi, mais que c'est Tashi comme l'ensemble d'une main qui tient une hache qui est mise en mouvement. Donc voilà, Tashi, ça devient beaucoup de choses rassemblées. Et donc, ce qui était supposé être. Parce qu'un soi, c'est quelque chose d'unique, hein, c'est pas quelque chose de multiple. Donc là, ça veut dire qu'on a un soi multiple, ce qui non plus n'est pas valide. Bon, après, donc, le soi, est-ce qu'il est strictement au niveau de l'individu, de la personne qui est cette entité qui, par exemple, respire et puis peut accomplir toute une diversité d'actions sans limite.
Donc,
oui, donc là on entend cet agrégat comme donc notre corps habituel. Et donc, si le soi se trouve dans ce corps, est ce corps qui est le nôtre habituellement, si on se coupe un peu avec un couteau ou avec une piqûre avec une épine, ou disons une coupure, si Tashi se coupe le doigt avec un couteau, on va dire Tashi s'est coupé. Tashi n'est pas coupé. C'est une petite partie de Tashi qui a été coupée. Alors donc, cette petite partie de Tashi n'est-elle pas le soi alors?
Non,
voilà, ça ne va pas du tout. Ça veut dire que Alors, Tachi s'est coupé un petit soir, ou c'est un petit soir qui a été coupé. Quand on raisonne ainsi, pour, à propos du soir, on le perd complètement. Du point de vue du raisonnement et de l'analyse, le soi ou le moi n'est donc nulle part dans le corps. Alors, il n'est nulle part dans le corps, donc maintenant, cherchons-le dans la conscience. Donc, comme on l'a vu, la conscience n'est pas quelque chose de permanent, c'est quelque chose d'impermanent en tant que succession ininterrompue d'instants de conscience. Et dès lors, si on applique la notion de soi à la conscience, cela démultiplie le soi en une multitude de soi qui se trouvent dans chaque instant de conscience. Bon, donc du point de vue conventionnel et du point de vue absolu, quand on dit un soi, c'est quelque chose qui, par définition, est incréé. C'est quelque chose qui est non né, hein, un soi. Donc, si on se place simplement sur le point de vue de trois instants, numéro 1, numéro 2, numéro 3, donc l'instant numéro 1 étant le premier instant. Donc, c'est le premier instant où le soi serait apparu, serait né, et puis il perdure dans le deuxième instant, l'instant présent, et il continue dans l'instant suivant. Donc là, on est en train de dire qu'il y a un soi qui, à un instant donné, est apparu, est né. Et donc là, on réfléchit, on essaie d'examiner, de comprendre comment il pourrait y avoir ainsi un soi en tant qu'unité permanente divisible qui se perpétue au travers d'instants de conscience qui apparaissent les uns après les autres, donc déjà en prenant le premier instant où il apparaît, soi, le deuxième instant où il perdure, puis le troisième où il continue. Comment donc peut-il y avoir un tel soi qui existe de cette façon?
Et
donc, si l'on réfléchit bien, par le simple raisonnement, on voit donc qu'il ne peut y avoir dans l'instant de conscience qui lui-même procède d'une apparition, durée et destruction, un soi qui lui ne saurait être destructible en aucune façon. Ou alors, si on dit que le premier instant, c'est celui d'apparition du soi, le deuxième instant, celui de sa durée, le troisième instant, celui de sa disparition. Donc, si on se place uniquement du point de vue du soi dans l'instant numéro 2, c'est-à-dire l'instant de sa durée, l'instant présent, hein, le précédent apparition, c'est le passé, et le suivant de sa destruction, c'est donc le suivant. Donc, dans le soi de l'instant présent, ne se trouve ni le soi apparu dans l'instant précédent, ni le soi qui va être détruit dans l'instant suivant. Et donc, quand on parle d'impermanence, on parle forcément de quelque chose qui a la capacité de fonctionner, d'agir. Quelque chose qui a une fonction, la capacité d'accomplir quelque chose. D'accomplir une fonction, de faire quelque chose, hein. C'est ça qui est contenu implicitement dans l'idée d'impermanence. Et il faut que ça soit tout cela dans l'instant. Et donc, ce que l'on appelle le passé ne peut donc pas être un instant. Donc de l'ordre de l'impermanence, puisque le passé n'a aucun potentiel d'action, de fonction, quel qu'il soit. Le temps passé ne peut accomplir aucune fonction, puisque il n'est pas. Donc, ce qui est passé d'abord ne peut pas être présent et ne peut accomplir aucune fonction puisqu'il est passé. Puisque si le passé pouvait accomplir une action, il ne pourrait, par définition, ne l'accomplir que dans le présent. Hein? Or, il est passé. Donc voilà, le passé comme incapable d'accomplir une action n'est donc pas impermanent.
Donc, chewa de deba re de nega ki tada da de chewa le ki chi che ne ne parwa ta tadi ne tada ki da de chewa re se de ko ko chewa cha gyo mar chewa de ki ji dang parwa ki ji dang bu de ne par yong tu wa mar
et donc le ce qui est le soi qui est au niveau de l'instant présent, il est né dans l'instant passé. Et donc, le soi qui est né dans l'instant précédent ne se trouve pas dans l'instant présent. Donc, il n'est pas né. Donc, le soi, en tant que quelque chose qui, par définition, est incréé, non-né, ne peut en aucun cas se trouver dans l'instant présent, puisqu'il procède forcément d'une naissance ou d'une apparition qui aurait eu lieu dans l'instant précédent et qui n'est plus, qui ne se trouve pas dans l'instant présent. Le soi, donc, on retient toujours hein, que par essence, c'est quelque chose qui est permanent et qui est non-né, et donc non plus, puisqu'il est permanent, ne peut être détruit. S'il se situait dans l'instant présent qui procède d'un instant précédent de naissance et qui va s'en suivre d'un instant suivant de destruction, cela ne saurait être. En plus, il faudrait qu'il y ait comme trois, soit dans trois instants séparés, passé, présent, futur, un soi qui naît, un autre qui dure, un autre qui se détruit. Donc là, il n'y a plus de soi alors, hein, puisque il est permanent, indivisible. Alors si on disait que le soi de l'instant présent est identique au précédent et qui est né au suivant, celui de l'instant suivant qui va se détruire, s'il est identique, alors ça signifie que les trois temps sont un seul et même. Passé, présent, futur sont un seul et même, identique. Alors, si le passé, le présent et le futur étaient un seul et même temps, alors ça signifierait que l'année d'il y a 2500 ans et quelques en arrière serait une seule et même avec l'année présente de 2017. Non, ça n'a pas de sens.
Tendu, tadagi kiji semge kiji nibate semge kiji nibate ko meta barisne ko jewa resne ko dutuku yo maris. Te jumje yanda ba maris.
On ne trouve aucune raison valide dans l'affirmation que le soi existe dans un instant qui est par essence impermanent comme quelque chose qui aurait été créé dans cet instant d'impermanence.
ta dinde ta ko ta da tisem gi gi de jewa ne che chewe ki tuni le ju remendu ro chewe ki gi gi de ne le ju remendu jibe gi de ne le ju remendu ta ko khani ke ta ko chi yone yo de ba khani ta dinde ko jume le ki ba tres
donc le soir suivant ce raisonnement n'existerait ni de par un instant précédent d'apparition, ni de, en lien avec l'instant suivant de destruction, alors est-ce à dire que le soi est quelque chose qui est dépourvu d'une cause ? Et donc là, on se pose la question, le deuxième instant, qui est donc l'instant présent, hein, par rapport au premier qui est le passé, le troisième est le futur. Donc, soit de l'instant présent, comment a-t-il fait pour être celui de l'instant précédent. Comment cela est-il possible? Par quel processus? Alors, puisque l'instant précédent a disparu, ça veut dire qu'il est apparu à partir de quelque chose qui a disparu. Comment cela est-il possible?
Ouais. Est-ce
qu'on peut parler donc d'une mère, que la naissance d'un enfant, donc depuis le ventre de sa mère, il serait né de par un ventre vide et que cela serait ce qui a fait que cet enfant est né parce qu'il est né d'un ventre vide? Ça ne veut rien dire. Si le principe était possible que des choses naissent ou apparaissent du néant, alors bon, ça voudrait dire que n'importe quoi peut apparaître de n'importe où. C'est-à-dire que bon, tout ce que l'on fait ordinairement pour semer des graines, pour que quelque chose pousse et puis ensuite le récolter, ça ne veut plus rien dire du tout. N'importe quoi pourrait apparaître n'importe quand. Donc, ce monde serait un grand n'importe quoi. Les enfants pourraient naître de leur père, par exemple. Mais bien sûr, les choses ne se passent pas comme ça. Hein. Rien ne peut apparaître à partir de rien. Donc, quelque chose doit apparaître à partir de quelque chose. Mais puisque ce quelque chose existe déjà, pourquoi devrait-il naître?
Oui.
Puisqu'il est déjà là. Il est déjà apparu, il est déjà né. Il n'y a pas besoin qu'il apparaisse encore puisqu'il est déjà là. Donc il en est ainsi de soi. Si c'est quelque chose qui naît, qui se crée, on ne le trouve pas.
C'est
Ce n'est ni quelque chose qui se crée, qui apparaît, ni quelque chose qui ensuite est, ni ensuite quelque chose qui disparaît, qui n'est plus. Il n'y a donc absolument aucun soi qui peut être trouvé dans ces termes de quelque chose qui est créé ou qui naît.
Ta kyawa kona madhub sayo shugu la kunyaba singhide yungi marwa.
Donc, si quelque chose n'existe pas en tant que quelque chose qui naît, qui est créé, bien sûr, il ne peut pas exister ensuite. S'il n'a pas été créé, s'il n'est pas apparu. Il ne peut pas y avoir ensuite quelque chose qui est, avec une certaine durée, hein, puisqu'il n'est pas créé, il n'est pas né. Et donc, bien sûr, quelque chose qui n'est pas ne peut pas disparaître non plus, puisque ça n'est pas. Et donc, voilà comment le soi, quelle que soit l'hypothèse que l'on émette, dans les termes de la permanence ou de l'impermanence, comme on le voit par le raisonnement, qui nous amène à des développements absurdes, ce soi qui devrait être permanent, donc n'existe pas dans toutes les possibilités qu'on a vues, puisque tout est régi par l'impermanence, et en tant que chose permanente elle-même, n'a pas non plus d'existence, il n'y a aucune validité, il n'a pas non plus d'existence possible. Donc ensuite, on peut raisonner sur ce qu'il en est des trois temps. C'est-à-dire, on pose la question, est-ce que les trois temps sont quelque chose de permanent ou d'impermanent?
Donc
dès que l'on prononce le mot temps, implicitement, on entend passé, présent, futur. Et donc, il nous faut définir ce qu'est temps passé, temps présent, temps futur. Et donc, puisque quand on parle du temps, là on est dans le principe et la notion de l'instant, l'instant de temps est donc quelque chose d'impermanent, par essence. Faut que ces trois temps soient impermanents et on ne peut en parler que distinctement. On va parler et définir le passé, le présent, le futur comme distincts et non pas un seul et même confondu. Donc, pour y voir clair et ne pas se tromper, on va donc distinguer clairement ce qui est le temps passé, ce qui est le temps présent et ce qui est le temps futur. Comme clairement distinctes les uns des autres. Dire que le temps futur c'est le temps présent, c'est une absurdité.
제가 그 뒤숨 타대도 샤고래. 다 뒤숨 타대도 샤사위나 뒤생이 안 두고요 말이야.
On doit donc les distinguer, hein, forcément, au moins en trois temps. Et si on les distingue en trois, alors qu'en est-il du temps, le temps, puisqu'il y en a trois. S'il y avait le temps, hein, comme une singularité, il n'y aurait jamais de futur. Il y aurait quelque chose d'invariable, d'immuable, de permanent. Donc, bon, puisque le passé est passé, on n'a pas besoin de l'évoquer. Mais il n'y aurait jamais de futur. Le présent durerait éternellement, immobile, invariable, immuable. Et donc, si on les considère ainsi de façon distincte, sans lien entre eux, donc le passé et le passé, qui n'est pas relié au présent, et qui n'est pas relié au futur, bien distinct. Alors, s'ils ne sont pas reliés, alors quel est l'intérêt d'exposer et d'expliquer ainsi cette organisation du temps suivant trois temps, passé, présent, futur, s'ils ne sont pas reliés? Et donc, quand on place les choses ainsi en trois temps, on s'aperçoit donc si bien pour le passé que pour le futur également, puisque le futur est distinct et qu'il n'est pas présentement, qu'il est donc dépourvu de la capacité d'accomplir quelque chose, de remplir une fonction. Donc on ne peut pas affirmer que ces trois temps passé, présent, futur sont impermanents, parce que s'ils étaient impermanents, alors ça voudrait dire que le passé doit se transformer, que le présent, l'instant présent doit se transformer et que le futur doit se transformer. Et le passé et le futur ne se transforment pas. Donc on ne peut en aucune façon établir, affirmer que le passé se transforme, qu'il est impermanent, de même pour le futur. Donc reste le présent comme supposé impermanent. Donc, il faudrait que le moment présent contienne en lui-même ses propres causes et conditions, ce qui n'est pas non plus. Mais bon, peut-être que je parle trop sur ce sujet. Mais pour résumer, tout est dépourvu d'une essence, d'une valeur quelconque.
Jésus,
Quand notre corps, cet agrégat, on ne trouve nulle part aucun soi, ni non plus au niveau de l'esprit, il n'y a de la conscience, il n'y a aucun soi. Donc, on ne trouve pas le moi, hein, moi, ou le soi, on ne le trouve absolument nulle part, ni dans le corps, ni dans notre corps, ni dans notre esprit. Or, pour qu'il y ait un soi existant, il faudrait bien le trouver quelque part. Hein. Si on le trouve nulle part, c'est qu'il n'existe pas. Sinon, on devrait le trouver. Et c'est ainsi que le troisième karmapa, Rangjung Dorje, dit l'esprit, il n'est pas quelque chose qui est, puisque même le Bouddha ne l'a pas vu. Donc, disons qu'on a établi, hein, qu'on conclut, qu'on établit que l'absence d'un soi de l'individu est donc, par déduction, cela va entraîner l'absence d'un soi des phénomènes. Ainsi, le Bouddha affirme et enseigne que tous les phénomènes sont vacuités et dépourvus d'un soi, c'est-à-dire que la totalité des phénomènes sont parfaitement dépourvus d'une existence intrinsèque, d'une réalité propre, en dehors de la simple perception subjective d'un esprit individuel sous l'emprise de la confusion, de l'illusion, de l'ignorance fondamentale. Donc, ainsi, on établit dans cette assertion que la totalité des phénomènes sont vacuité et donc ils sont dépourvus d'un soi. Voilà, donc l'absence d'un soi des phénomènes, ça concerne ce que l'on appelle l'objet. Donc maintenant, pour ce qui est du sujet, donc le sujet, c'est nous-mêmes, chaque individu. Et donc là, on a établi aussi bien du point de vue de l'individu, le sujet, l'absence d'un soi. Quant à l'objet, c'est-à-dire ce qui est autre que le sujet, donc ce qui est autre, l'objet, et quand on dit autre, ça ne se limite pas à une autre personne ou une autre chose. Quand on dit autre, cela embrasse la totalité des phénomènes sans exception, c'est cela qui est autre et qui est l'objet, et qui est donc également parfaitement dépourvu d'un soi. Donc là, on a la double absence d'un soi, de l'individu et des phénomènes.
Donc, kakone, ta dinde cheba chayende, ane sozo ke sem kurang, ane ngoo kanya ma chupa, tongba, dame ke soto, ta jikishana yungu yores.
Et donc, quand on a réalisé cela, ensuite, se tournant vers l'intérieur, contemplant notre esprit dans sa nature essentielle, on en comprend et on en réalise la parfaite vacuité et absence d'un soi. Et donc, il y a, du point de vue du raisonnement et la contemplation extérieure, certaine absence d'un soi qui peut être comprise, mais cela n'est pas la véritable absence d'un soi. Parce que, du point de vue relatif et extérieur, cette absence d'un soi ne l'est que comme une apparence subjective. Donc c'est une pseudo-absence d'un soi, hein, puisque apparence
subjective.
Donc, c'est-à-dire que quand on dit ça, la pseudo-absence d'un soi, c'est l'absence d'un soi qui va rester au niveau conceptuel quand on aura compris donc qu'il n'y a pas lieu de saisir un soi dans la totalité des phénomènes. Parce qu'il n'existe nul soi où que ce soit dans les phénomènes et que cette saisie que l'on développe envers un soi, saisie égotique, saisie dualiste, n'a pas lieu. On voit bien que là, on reste complètement du point de vue de notre propre réflexion, même si elle est valide, c'est de la réflexion subjective des concepts. Ce n'est donc pas ce que l'on appelle absolument l'absence d'un soi, c'est une pseudo absence de soi. Alors, pour transcender, hein, c'est le niveau intellectuel des choses, pour le transcender et accéder à la réalisation de l'absence d'un soi, là, il est nécessaire d'actualiser le dharmakaya. Le dharmakaya, le corps de phénoménalité, c'est ce que l'on entend quand on dit l'au-delà de la souffrance est paix.
Et
donc quand on dit le dharmakaya, le corps de phénoménalité, on entend par là l'union indifférenciée de la sphère de réalité ultime et de la conscience primordiale, et c'est cela qui est l'authentique réalisation de l'absence d'un
soi.
Donc, quand on dit réaliser la vacuité, cela s'applique-t-il à quelque chose qui est ou à quelque chose qui n'est pas? Ça s'applique à quelque chose qui n'est pas.
Et
Quand on dit réaliser, donc c'est un terme que l'on utilise, donc on parle de réalisation du Dharmakaya ou bien réalisation de les qualités de la nature absolue de toute chose, de la sagesse primordiale. Bon voilà, ce sont des termes, mais on parle exactement de la même chose. Et quand on parle de réalisation, ça n'a absolument rien à voir avec pour nous l'idée habituelle d'obtenir quelque chose. C'est-à-dire que dans notre compréhension ordinaire, on n'obtient pas le Dharmakaya ou compréhension, la réalisation de l'absence d'un soi, etc. Ça n'a rien à voir avec ce concept ordinaire d'obtenir quelque chose comme quelque chose qui nous est donné, que l'on obtient. La réalisation à ce niveau-là n'a rien à voir avec obtenir quoi que ce soit. Et donc quand on réalise la vacuité ou qu'on actualise vacuité dans toute sa profondeur, donc on réalise ce que l'on appelle le Dharmakaya, et dans ce corps de phénoménalité actualisé au niveau de l'esprit, cela signifie alors donc toutes les qualités incommensurables qui sont celles de l'éveil parfaitement accompli, les dix pouvoirs, les quatre intrépidités, etc. Donc tous les pouvoirs et toutes les qualités de l'éveil qui sont de fait réalisées avec l'actualisation du Dharmakaya, la réalisation de la vacuité. C'est donc cela qu'on entend quand on dit nirvana, qu'on traduit par au-delà de la souffrance. Alors quand on dit en tibétain nyangde, au-delà de la souffrance, quand on dit ce terme en tibétain nyangde, il y a deux significations, deux interprétations conventionnelles pour ce terme. Il y a une interprétation conventionnelle qui, quand on dit atteindre le nirvana, qui signifie quitter ce corps, mourir. Et puis, le deuxième sens est donc atteindre l'au-delà de la souffrance, c'est-à-dire réaliser parfaitement la vacuité, l'actualisation du corps de phénoménalité. Mais de toute façon, dans les deux sens du terme, de passer en le nirvana, soit quitter son corps ou réaliser la vacuité, le Dharmakaya, ce qui est dit dans le mot lui-même, passer en l'au-delà de la souffrance, c'est cela. Dans les deux cas de figure, on passe en l'au-delà de la souffrance, la libération définitive de toutes les souffrances du samsara. Et on obtient alors ce que l'on appelle la paix ou encore la félicité.
Voilà,
je vais m'en tenir là pour ce qui est de l'enseignement. Et maintenant, nous pouvons consacrer du temps à des questions-réponses. Alors, la parole est à vous. Oui, parle un peu fort pour que j'entende. Enfin.
C'est par rapport à ce qui a été dit le premier jour. Si c'est illusion de croire que le corps et l'esprit sont un, c'est ce que je crois que c'est
le oui.
Est-ce qu'il faut comprendre par là que c'est aussi illusion de croire que le corps et l'esprit sont séparés?
So, on the first day, you say that it is confusion, mistake, to think or believe that body and mind are one. But then, isn't it as well a mistake? Effectivement, le corps et l'esprit ne sont ni confondus en un seul. En un seul, ni non plus séparés.
Ouais,
c'est ce qu'on appelle le milieu, la vue du milieu. La voie du milieu. Et c'est ainsi que Nagarjuna disait je n'affirme rien donc je ne commets aucune faute.
Parce
que dès qu'on affirme quelque chose il y a forcément une erreur. Nous sommes les disciples de Nagarjuna.
Tatang
anso ke tsama nyamdo tsu la kontena la yore rimbuche nyamdo yore ngatsu kacho to tugdo nyam tugdo tene kanya la nonsu dup mena tene ton tatsa ne yo marwa. If nothing exists at all. Non, bien évidemment qu'il y a un sens. Parce que donc là, vous commettez une confusion en disant cela. Il y a, bien sûr qu'il y a un sens à être là et écouter ces enseignements. Ce que nous pouvons retirer et le sens qu'il y a à être là, à écouter ces enseignements, c'est être capable ensuite par nous-mêmes de comprendre quelle est la nature des choses. Voilà le sens. C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas ce qu'est la nature vacuité de toute chose, quel est le problème? Le problème, c'est que vous allez persister dans votre attachement, votre préhension très puissante des choses, des objets, de toutes les choses de ce monde, et vous allez donc perpétuer votre course sans fin dans les souffrances du cycle des existences. C'est ça le problème, ne pas comprendre la nature vacuité des choses.
동이 구바 대로 동이 구바 대 가잔나신 얘기 메다바 셴바 메다바 지단기 군일로 대가라 셴바기 미세 편도 고미다고 공부대 원랑기 팽이 말았어요. 되나이 대가란 된나신기 싫어블야 된드 동이 도비 싫어 대가란 된드
Et donc, tout cela a bien sûr un sens, hein, parce que cela nous mène ensuite à réaliser par nous-mêmes ce qu'il en est de la nature réelle de toute chose en ce monde, en cultivant ainsi, c'est ce qu'on vient d'expliquer, la suprême connaissance, l'intelligence, hein, la sagesse qui comprend la vacuité comme étant la nature essentielle de toute chose. Et donc, tout comme on a parlé précédemment de l'impermanence, mais donc, qu'on parle d'impermanence ou de compréhension de la vacuité, bien sûr, ce ne sont pas, cela va avoir un sens, ça va nous être vraiment utile, si on n'en reste pas là au fait d'avoir entendu l'enseignement et plus ou moins compris ce qui a été dit. Cela a un sens et va nous être réellement profitable à chacun si ensuite on poursuit pour intégrer à notre pratique cette compréhension, cette conscience de l'impermanence ou bien donc le développement de notre propre suprême connaissance ou sagesse pour parvenir à terme à réaliser la vacuité. Là, ça, bien sûr, ça a un sens total et ça va nous être très profitable. Donc, réaliser le sens de la vacuité, c'est la suprême connaissance que nous allons développer en nous et cultiver qui va nous permettre de réaliser le sens de la vacuité. Et cette suprême connaissance va ainsi nous permettre, de fait, d'éliminer l'ignorance. Oui ?
Kasang Rinpoche Kusungudu te mik nampar shepa nawe nampar shepa la sopa de tetsu nampar shepa ngapo tetsu ge yul tongi omare sem ge yul te tongi do mato nampar shepa mik tan nawa la sopa ge nampar shepa tetsu ge yul tongi omare sungudu
chirendi tongi omare
tene moron ge segudu ta Mingepo tetso, mingepo yena tene, namshin nga tetso, nyam kale nyam dogdwa la. Tene kale yul yapo tongmendo, da yapo kogmendo, la sopat. Tesena, namshig yul matuk, matong yinsan, semte nyam dogdo. Gepo nashi do degdu ge shugdu.
Ande sonso, di wangbun aare taha bosa. Ta di yu nga la jebe ge shiba di nyamdu ge yores. Sem nyamgu yu ma res.
Non, ce qui décline, ce sont les facultés sensorielles. L'esprit ne décline pas.
Donc on ne peut pas dire que c'est l'esprit qui voit.
Te insan, sem... Yul tongen semre laptu gemarwa.
Yul tongen de semre.
Ah non, c'est l'esprit qui voit.
Yul tongen de semre.
Qui voit l'objet.
Alors, yul tongen de semre, ane kan sati. Sem koran ko shit shine ko mutine junjang dingi dian semre.
Et c'est l'esprit qui continue par-delà la mort. et qui migre, qui va vers une nouvelle existence. C'est l'esprit, et uniquement l'esprit. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le processus de dégénérescence dû à l'âge et donc du déclin de nos facultés sensorielles, visuelles, auditives, etc. C'est simplement parce qu'il y a une dégénérescence physique de nos cinq facultés sensorielles. L'esprit, la conscience, elle, enfin, l'esprit ne subit aucun déclin, aucune dégénérescence, ne vieillit pas. Mais comme le vecteur de perception dégénère et s'affaiblit, décline, c'est pour cela qu'il y a le déclin des perceptions sensorielles.
Pena, suzu tai mi gebu khajang ta gebu chabe yin ya ro me gebu chabe yin ya wang bu chazo nyam be yin ya ko la minan ta ya ro
par exemple une personne
milam ge nara ko lo chu ju ja chen da sama ton da sama te sama ji ji ya ro ko shi ba nyam yo ma des ko shi sama shi ba de nyam yo ma wang bu nga ge shi ba de nyam ro.
Prenons donc l'exemple d'une personne vraiment très âgée et dont la vue, l'audition, etc. ont vraiment, vraiment décliné. Bien cette personne, quand elle rêve, alors par contre, dans ses rêves, là, elle voit tout parfaitement, elle entend tout, et elle a ses cinq sens qui sont parfaitement intacts quand elle rêve. Ce qui est bien le signe que son esprit n'a pas du tout subi la dégénérescence de l'âge, aucun vieillissement, aucun déclin. Ce ne sont que sur le plan physique dégénérescence sensorielle, mais absolument pas au niveau de l'esprit. Hein. La preuve est donc le rêve chez une personne âgée.
Tainsan semtan nampar shupak derwachi yo salwa semtan mig namshe nawen namshe tan derwa yo rwa
ore re namshi kona semre machine.
Mais pour sûr qu'il y a rien, puisque la conscience sensorielle est l'esprit lui-même. Bon, en fait, bon, il faudrait reprendre les choses pour décrire l'esprit, qui est donc, en tant que ce que l'on appelle conscience, les différents aspects de la conscience, il y a ce qu'on appelle la conscience fondamentale, conscience base de tout, conscience fondamentale qui comporte deux aspects, hein, comme deux faces. Elle a une face pure et une face impure. Et la conscience base de tout, impure, c'est la conscience fragmentée, namché, et celle qui est dans l'illusion, et l'aspect pur, ben c'est Yeshe, la conscience primordiale.
Le
pur impur, la limite, la différence est juste faite par réaliser ou non le sens de la vacuité. Donc, parce que maintenant, donc, ce qui est en notre être, c'est donc namché, donc ce qu'on traduit usuellement par la conscience, plus précisément conscience fragmentée, c'est cela qui est maintenant en nous. C'est notre esprit. On utilise deux termes différents, mais on parle de la même chose. Hein. Mon esprit ou ma conscience, avec ce terme de conscience fragmentée vis-à-vis de conscience sagesse primordiale, c'est ce qui est en nous maintenant.
Donc
il y a en nous, hein, c'est vraiment le centre de notre être, cette conscience, principe conscient, qui au travers des facultés sensorielles et physiques va pouvoir faire l'expérience de toutes sortes de choses, et donc particulièrement voir des formes, entendre les sons, etc. Donc, physiquement parlant, il y a effectivement des facultés sensorielles qui se développent, qui perdurent et qui se dégénèrent, déclinent à la fin de la vie, prématurément, pour telle cause. Quant aux facultés sensorielles, mais du point de vue strict de la conscience, et donc les cinq consciences sensorielles qui donc sont liées aux cinq vecteurs des facultés sensorielles, les cinq consciences sensorielles et donc la conscience elle-même, en fait, puisque c'est cela, c'est la conscience, c'est l'esprit, cela, non, ne subit aucune dégénérescence au cours du temps, avec l'âge, quoi que ce soit. Voilà.
Oui.
Oui, 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 oui.
We may say he lost his mind. Somebody.
Mm.
He lost his mind. So what would you say if somebody has lost his mind?
Tadi nesul tin son tanga. Ko lo se te ko chumse ya mambu yujiro.
Bon, alors là, il peut y avoir pas mal de raisons. Quand on dit quelqu'un qui perd l'esprit,
Nana.
Oui, mais bon, je veux dire, ça c'est une expression qui peut avoir toutes sortes de significations, d'interprétations suivant les personnes, les cultures, etc. Qu'est-ce que vous, il faut. Non, je me disais, est-ce que c'est quand on dit quelqu'un qui se met en colère et qui perd son esprit aussi, l'expression peut s'appliquer. D'accord, donc quelqu'un qui est une maladie psychique. Donc c'est ce qui est en cause dans le cas donc d'un dérèglement d'une maladie mentale, justement c'est un aspect, disons l'aspect mental de la conscience qui est malade. Et donc qui subit un dysfonctionnement, l'esprit fondamental, lui, il ne saurait être malade ou touché en aucune façon. Mais c'est au niveau de la conscience mentale qu'il y a un dysfonctionnement. Voilà, on va conclure, oui, on va conclure. Voilà, donc je me réjouis vraiment d'être ici de retour à Karma Myung-Ling après 9 années. lors de mon dernier passage et donc d'avoir été là pendant ces journées avec vous tous et d'avoir pu donner cet enseignement. Je m'en réjouis. Voilà, sinon, bon là, je n'ai rien de, d'autre de particulier à vous dire, sinon que vraiment, je suis heureux d'être ici. Et puis donc voilà, il n'y aura eu que 2-3 jours pour être ensemble et partager ainsi. Et aujourd'hui, ça se termine. Donc je vous remercie tous d'être venus, d'avoir écouté, et aussi bien le traducteur qui a traduit, et puis vous tous qui avez écouté. Je vous dis merci à tous. Et avec tous mes souhaits pour toute une chacun ou tout un chacune de longue vie et d'être sauf de tous les obstacles qui peuvent être en travers de votre chemin.
Sonam de